Le grand entretien pour une vingtaine de minutes avec ce matin Stéphane Pallez. Bonjour madame.
Bonjour.
Présidente, directrice générale, vous tenez à la féminisation du titre, de la Française des Jeux. Madame Pallez, le gouvernement souhaite privatiser la FDJ, la Française des Jeux, une entreprise publique qui marche plutôt bien. Vous avez 950 millions d'euros de trésorerie, ça va mieux d'année en année. Alors que fait le gouvernement? Il privatise les gains et il nationalise les pertes?
Alors, je ne crois pas que ce soit l'intention du gouvernement, j'en suis même sûre, parce que d'abord, ce qu'on peut dire, c'est que les gains, ils vont majoritairement aux joueurs, et ça doit rester le cas, puisque c'est le fondement du modèle d'une entreprise comme la Française des Jeux. Donc sur 15 milliards de mises, 66% évidemment sont retournés aux joueurs. Deuxièmement, ce qui est très important pour l'entreprise, c'est que c'est une entreprise dont la majorité des prélèvements de l'État sont en fait c'est un prélèvement sur les jeux, c'est une recette fiscale plus de 3 milliards
par an, environ
3,4 milliards, et ces 3,4 milliards, ils ont évidemment ils vont rester à l'État, puisque ça n'est pas privatisé.
Donc il y aura toujours une sorte d'impôt spécial que l'État prélèvera, une redevance sur les gains.
Tout à fait. Donc l'essentiel de ce que l'État touche sur la Française des Jeux, ce sont ces 3,4 milliards. Par ailleurs, l'État, effectivement, qui est actionnaire à 72%, il touche des dividendes. Et donc, si l'État passe en dessous de 50% du capital, comme il en a maintenant annoncé l'intention, il touchera moins de dividendes. Mais l'essentiel de ce que l'État retire de l'entreprise va rester pour financer des dépenses d'intérêt général, pour financer le sport, pour financer le patrimoine, pour financer tout simplement, encore une fois, des dépenses du budget de l'État, qui sont des dépenses pour tous les Français.
Expliquez-nous, Stéphane Pallez, si la Française des Jeux est privatisée, elle perd son monopole ou pas sur les jeux de loterie?
Non, alors c'est
étonnant ça. Comment une future entreprise privée peut garder un monopole?
Alors c'est le cas dans beaucoup de secteurs. Il y a beaucoup d'entreprises privées qui gèrent des monopoles dans
Par
beaucoup
exemple,
de secteurs.
S'il vous plaît.
Alors dans le secteur des télécoms, il y a encore une partie qui est en monopole. Ce sont des monopoles qui sont liés aux infrastructures. Alors nous c'est différent puisque nous c'est un monopole qui est lié à ce qu'on appelle la régulation des jeux, l'ordre public social. Le fait que les jeux comportent des risques. Et d'ailleurs, autour de nous, dans le secteur des jeux, beaucoup d'opérateurs étrangers sont privés et gèrent des monopoles.
C'est un peu comparable, par exemple, à la vente d'alcool ou de cigarettes?
Alors, ce qui est comparable, c'est le fait qu'il y a des formes de régulation, mais là, on est vraiment sur une régulation d'un type qui est assez particulier, puisque c'est une activité qui, dans tous les pays, est considérée comme à la fois une activité qui, effectivement, génère des recettes pour l'intérêt général et qui comporte des risques. Et il a été admis, au niveau européen, mais dans le monde, que cette activité, compte tenu de ses caractéristiques, pouvait être exercée en monopole par des opérateurs privés. La condition du monopole, et ça sera le cas dans le projet du gouvernement, c'est que l'État garde un contrôle étroit de l'activité. Alors le contrôle étroit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'État va rester au capital, donc il ne va pas disparaître du capital de l'entreprise.
Comme Air France, comme Renault.
Voilà, mais avec des droits spécifiques, et surtout ce qui est très très particulier à ce secteur, mais qu'on trouve dans d'autres secteurs, c'est la régulation. Donc c'est la régulation des jeux, et donc c'est ça qui assure le contrôle finalement final de l'État sur l'activité de jeu. C'est pas le fait d'être actionnaire au-dessus de 50%, c'est le fait d'avoir ce contrôle particulier de l'activité des jeux qui va rester.
Et ça ne pourra pas être remis en cause, par exemple, par la Commission européenne?
La Commission européenne a tout à fait admis ce modèle qui, encore une fois, est pratiqué autour de nous, en Italie, en Angleterre. Aujourd'hui, dans les trois principales loteries européennes, nous sommes la deuxième loterie européenne, après la loterie italienne, la loterie britannique, l'italienne et la britannique sont privées. Donc nous ne sommes pas spécifiques.
On reviendra sur le processus de privatisation qui intéresse déjà les auditeurs qui appellent au 01 45 24 7000. Stéphane Pallez, je voudrais parler de la vie interne de la Française des Jeux. Ça va forcément changer quelque chose pour les salariés, cette privatisation. L'ancien secrétaire d'État au budget, Christian Eckert, s'inquiète. Il dit, si la Française des Jeux est privatisée, il faudra augmenter la rentabilité de l'entreprise. Comment ? Comment est-ce qu'on augmente la rentabilité de l'entreprise ? Précisons que l'ancien secrétaire d'État du budget était en quelque sorte votre ministre de tutelle.
Tout à fait. J'ai effectivement beaucoup travaillé avec Christian Eckert, avec qui j'entretenais une excellente relation. On a bien travaillé ensemble.
Vous allez devoir gagner en rentabilité.
Alors, d'abord, je pense qu'on a déjà gagné en rentabilité. Donc ça, c'est intéressant de le rappeler à tout le monde. La Française des Jeux a un modèle qui est un modèle qui est fondé sur la croissance, mais une croissance saine, puisque c'est une croissance dans laquelle nous devons impérativement continuer en même temps de contrôler les risques associés au jeu. Et comment est-ce que nous le faisons ? Nous le faisons à la fois en continuant à avoir un grand bassin de joueurs qui jouent de manière raisonnable, c'est-à-dire avec des mises moyennes faibles. Donc nous sommes une entreprise qui est d'abord une entreprise de croissance. Et donc comment on a augmenté la rentabilité aujourd'hui, alors que nous ne sommes pas privatisés ? Eh bien on l'a augmenté dans un modèle de croissance dans lequel on finance une croissance future par de l'investissement et en même temps nous augmentons notre performance puisque en fait nous avons plus de mises pour des investissements, des coûts fixes si vous voulez, qui sont les mêmes.
Donc ça, au quotidien, ça, c'est, dans la marge
ça, c'est
de l'entreprise,
ça, c'est ça, la performance.
Dans la vie des salariés, cette privatisation ne va pas changer les choses. Je vous pose la question parce que vous avez été par exemple en poste à France Télécom Orange, vous étiez directrice financière pendant cette grande vague de suicides, 30 morts sur les années 2008-2009. Donc vous avez vu de très près, si je puis dire, que les changements de statut, les changements de culture, l'adaptation à des nouveaux process de travail, ça peut être terriblement douloureux.
Alors, moi, j'ai vu ce qui s'était passé. Alors, j'étais numéro 2 de la direction financière, mais j'ai vu ce qui s'était passé. Je pense qu'on peut absolument pas comparer la situation des deux entreprises. Donc, je vais pas parler de France Télécom parce que c'est pas le sujet. Aujourd'hui, à la Française des Jeux, d'abord, il n'y a pas de statut. C'est-à-dire qu'on n'a pas ce passage d'une entreprise à statut à une entreprise avec des contrats de droit privé. Donc, tous les salariés sont dans des contrats de droit privé. On est une entreprise dans laquelle, je crois qu'on peut dire que les salariés sont très associés à la fois au résultat de l'entreprise et à sa stratégie. Donc, il y a des accords d'intéressement et de participation qui fonctionnent depuis longtemps. Les salariés sont actionnaires de l'entreprise aussi. 5% du capital est déjà détenu par les salariés et peut-être que la privatisation va permettre d'associer plus de salariés puisqu'aujourd'hui, ils ne le sont pas encore tous. Donc c'est une entreprise dans laquelle je crois qu'il y a un très fort dialogue sur la manière dont l'entreprise se développe, s'est développée, va continuer de se développer et pour moi, le projet de privatisation c'est évidemment quelque chose qui doit être vu par les salariés comme une opportunité de prolonger le développement de l'entreprise qui leur a bénéficié, dont je pense qu'ils ont récupéré une partie des fruits à travers leur intéressement au résultat. Et mon objectif, c'est que ça continue.
Vous en parliez tout à l'heure, Stéphane Palaise, le besoin de réguler, d'encadrer. Il peut y avoir une addiction au jeu, parfois. Vous avez en tête cette dimension morale ?
Alors, pour moi, c'est pas une dimension morale, c'est la régulation. C'est-à-dire que la mission de l'entreprise Française des Jeux, en gérant le monopole, c'est aussi de gérer les risques. Donc, c'est absolument au cœur de l'entreprise. Ce qu'on appelle le jeu responsable fait partie des politiques très importantes de l'entreprise et du dialogue constant que nous avons avec le régulateur, avec les régulateurs, puisqu'aujourd'hui, nous avons plusieurs régulateurs. Donc, c'est certainement moins connu, mais nous sommes une entreprise qui soumet tous ses jeux au régulateur du monopole, qui évalue l'impact de ces jeux et qui rapporte cette évaluation auprès du régulateur, qui éventuellement modifie ces jeux, voire les supprime quand ces jeux comportent trop de risques. Après, il faut rappeler, je crois que c'est important de le dire, que la France, quand on la compare avec d'autres pays, je pense que la France est plutôt un pays qui est faible en termes d'addiction, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des cas, puisqu'on a 0,6% de joueurs qui posent un problème de jeu excessif, c'est-à-dire qui sont vraiment en risque, qui sont addicts et qui sont des gens que nous signalons aux organismes spécialisés qui s'occupent de l'addiction, avec qui nous avons également beaucoup de relations, et nous avons moins de 3% de joueurs problématiques.
Mais donc dans un pays où longtemps la religion, puis la République a interdit le jeu, vous ne posez pas de questions morales?
Alors, je pense que chacun a ses convictions morales. Moi, je veux dire, si j'avais une conviction morale qui m'interdisait de gérer cette activité, j'aurais refusé le poste. Voilà. Donc, je suis en accord avec mes convictions. Et après, chacun a ses convictions et il faut les respecter, comme sur beaucoup de choses.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer la situation des autorités de régulation? C'est très compliqué pour réguler le jeu en France. Ce ne sont pas les mêmes personnes qui régulent les casinos, les courses de chevaux et la loterie.
Alors, je vais l'expliquer rapidement, mais en réalité...
Mais c'est le cas.
Alors, c'est le cas. C'est-à-dire que la régulation est fragmentée. Il y a plusieurs régulateurs. Alors, aujourd'hui, le régulateur principal du monopole en matière, sur la Française des Jeux et pour le PMU, c'est donc le ministre de l'Action et des Comptes Publics qui est appuyé sur une commission d'experts qui s'appelle la COGEX.
Donc ça, c'est le budget, pour faire simple.
C'est le budget, mais avec cette commission qui est une commission dont la majorité des participants ne sont pas des gens du ministère des Finances. Il y a des addictologues. Donc c'est une commission d'experts du jeu et qui sont vraiment faits pour donner un avis sur justement les risques d'addiction au ministre et qui le donnent, je peux vous dire, de manière très 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 précise.
Ça, c'est la loterie.
Donc ça, c'est la loterie et le PMU. Et le PMU, parce que le PMU est aussi en monopole sur l'activité de par équipe hippique en point de vente. Donc nous sommes tous les deux régulés par le ministre de l'Action des Comptes Publics. Le PMU a, compte tenu de la filière hippique, une autre tutelle.
Le ministère de l'Agriculture.
Voilà. Donc c'est la situation du PMU. Et puis nous avons effectivement les casinos qui sont régulés par le ministère de l'Intérieur. Et puis nous avons l'ensemble du marché en ligne, qui est un marché en concurrence, qui a été ouvert en 2010, qui est régulé par une autorité indépendante qui s'appelle l'ARJEL et qui régule donc les paris sportifs en ligne, le poker en ligne et le pari hippique en ligne.
Voilà, et c'est pour ça d'ailleurs que deux députés plaident pour la création d'une autorité de contrôle unique. Et d'ailleurs, c'est assez transpartisan puisqu'on a une députée de La République En Marche et un député ammoniste qui disent la même chose dans un rapport. Donc on aura sans doute une autorité régulée dans les mois à venir.
Ça fait partie des projets du gouvernement. Ça a été annoncé par Bruno Le Maire et Gérald Darmanin. Donc il y a une réflexion qui est aujourd'hui en cours pour voir dans quelle mesure, effectivement, on peut avoir une régulation qui soit peut-être plus simple, plus lisible pour tout le monde, parce que comme vous dites, c'est compliqué.
8h33, on va au standard.
France Inter, le 6-9 de l'été, intervenez.
01 45 24 7000, franceinter.fr. Bonjour Benjamin.
Bonjour Madame Pallès.
Bonjour.
Actuellement, vous gagnez 300 000 euros par an environ en tant que PDG de la Française des Jeux. Les privatisations d'entreprises publiques se traduisent toujours par une explosion de la rémunération de leurs dirigeants. Est-ce que vous allez gagner au loto quand l'entreprise sera privatisée?
Merci Benjamin. Stéphane Pallès, allez-vous gagner plus en devenant la PDG, la présidente directrice générale d'une Française des Jeux privatisée?
C'est vraiment une question que je ne me pose pas. Que je ne me pose pas. Moi, je suis donc j'ai accepté d'être à la tête de cette entreprise pour la développer. Je pense que c'est ça a été mon souci quotidien depuis que j'ai été nommée fin 2014. C'est ce que j'espère continuer à faire, quel que soit le cadre dans lequel il aura lieu. Et voilà, c'est vraiment pas une question que je me pose.
Mais vous avez bien une idée sur la question. Vous avez déjà suivi des processus de privatisation quand vous étiez dans différents ministères, celui du GAN, de Thomson, Air France. Vous avez vu comment ça se passe?
Mais je pense qu'il y a, enfin, on pourrait, il y a autant de cas de figure que d'entreprises. Et encore une fois, ça n'est absolument pas ma préoccupation. Et j'avoue que j'ai beaucoup d'autres choses qui me préoccupent au quotidien que de réfléchir à ce sujet, qui d'ailleurs, de toute façon, est assez lointain en toute hypothèse, puisque on parle d'une opération qui ne peut pas se dérouler avant 2019. Donc j'avoue que d'ici là, j'ai beaucoup de travail et c'est vraiment pas mon souci.
Bon, donc Benjamin devra encore attendre pour avoir une réponse à sa question, Stéphane. Pallès, on retourne au standard d'Inter. Bonjour Serge.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Je voulais savoir si le problème n'est pas même pour les autoroutes qui ont été privatisées par erreur quelques années et qui consiste à privatiser une activité qui est aujourd'hui très rentable et dont les bénéfices vont être transférés au privé au lieu de rester dans le budget de l'État.
Et merci Serge.
Personnel, évidemment, je regrette, je trouve ça.
On vous entend pas très bien, il y a une coupure, donc je reformule votre question. Faut-il privatiser une entreprise rentable? Ça enrichit les entreprises privées au lieu de remplir les caisses de l'État. Vous avez partiellement répondu à cette question, mais on peut réexpliquer à Serge.
Bien sûr. Oui, donc merci de votre question, parce que je pense que c'est très important de répondre à cette question. Effectivement, ça n'a rien à voir avec ce qui a été fait sur les autoroutes, sur lesquelles moi je n'ai pas de jugement à porter, puisque comme je le disais au début, ce qui est envisagé, ça n'est absolument pas de privatiser l'essentiel des recettes qui reviennent à l'État. Les 3,4 milliards que nous versons chaque année au budget de l'État et qui notamment bénéficient à certaines causes d'intérêt général très importantes, qui sont notamment le sport, on pourrait en parler, ou le patrimoine, comme on en parlera beaucoup à l'automne prochain, ces recettes doivent absolument être sécurisées et donc il n'est absolument pas question de privatiser l'essentiel des recettes que la Française des Jeux rapporte à l'État.
Beaucoup d'auditeurs nous font ce parallèle avec les autoroutes privatisées il y a quelques années. Fabrice sur franceinter.fr, Isabelle au Standard ou Bénédicte également sur franceinter.fr qui nous disent « mais on ne va pas vendre la poule aux œufs d'or ?» C'est pas le cas.
Ça n'est pas le cas. Donc ensuite, c'est un choix de l'État qui pense qu'il n'a pas besoin de détenir 72% du capital pour contrôler l'entreprise, qui va en fait rester actionnaire de l'entreprise, donc qui va être toujours intéressé à la croissance et aux résultats de l'entreprise dans les prochaines années. Donc tout ça est extraordinairement différent des autoroutes.
Vous parliez du sport, Stéphane Palaise. Question de Maxime sur franceinter.fr. Quel est le... Non, pardon, c'est pas Maxime dont je voulais prendre la question, c'est la question de Fabien. On a parlé hier d'un record de mise pour la Coupe du Monde. 690 millions ont été misés pendant les matchs. Est-ce qu'on sait combien les joueurs ont gagné, hein, les gains total? Est-ce que ce chiffre existe?
Alors, je n'ai pas ce chiffre en tête maintenant, parce que le chiffre que vous citez, c'est l'ensemble des paris sportifs.
Les paris sportifs donc, pendant la Coupe du Monde.
Pas seulement les paris sportifs à la Française des Jeux, puisque sur ces 690, il y en a, si je puis dire, que 333 millions qui ont été faits à la Française des Jeux. C'est clair.
Et
que
vous savez pas combien sont repartis en gains encore.
Alors, j'ai pas ce chiffre. Par ailleurs, c'est très variable suivant les matchs. Puisqu'il y a des matchs où, comme on l'a vu, il y a eu des surprises. Et dans ce cas-là, effectivement, les joueurs ont pu perdre alors qu'ils espéraient gagner de manière beaucoup plus significative. Et il y a évidemment des matchs, notamment le dernier match, où les Français, et je suis totalement heureuse qu'ils l'aient fait, ont parié massivement sur la France. Et donc, ils ont gagné beaucoup d'argent sur le match français, sur le match de la finale avec la France. Et on en est très contents.
Le sport, c'est un... Oui, on est tous contents.
Eh ben oui.
Le sport, c'est un axe de développement pour vous, le pari sportif?
Alors, le pari sportif, ça fait partie de nos axes de développement. C'est un segment d'activité qu'on a bien développé depuis notamment 2010, au moment où il y a eu l'ouverture du marché des paris sportifs en ligne, où effectivement, on a développé, nous, notre activité dans les points de vente physiques et en ligne. C'est un marché qui a encore, je pense, du potentiel, puisque on est encore en dessous de la pratique qu'on peut voir
sur d'autres
marchés. En Angleterre, alors, sans même vouloir atteindre
les
records anglais, on peut penser qu'il y a encore, c'est un marché qui a du potentiel de croissance. C'est clair que de ce point de vue-là, la Coupe du Monde a été une opportunité extraordinaire aussi d'expliquer à un certain nombre de gens qui ne savaient pas ce que c'était qu'un pari sportif sur un match de foot, comment ça marchait, et de les intéresser éventuellement. Et donc on va continuer de développer ce marché, bien sûr.
Loïc vous demande, avec la privatisation, que vont devenir les subventions que versait la Française des Jeux aux petits clubs ?
Alors, en fait, nous, on ne versait pas directement de subventions aux petits clubs. Enfin, on ne verse pas parce que c'est le, faut parler au présent. Ce que nous faisons, c'est que une partie de nos mises sont prélevées par l'État pour financer ce qu'on appelle le Centre national de développement du sport français. Donc, c'est peut-être ce à quoi il est fait une allusion.
Je pense que c'est effectivement le message de Loïc pour financer
les équipements et aussi les animateurs de ces équipements sur le territoire. C'est très important pour nous.
Et donc cette contribution, elle devrait rester ?
Alors, moi je souhaite qu'elle reste. Le CNDS, simplement, ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un moment où on est en train de réfléchir, enfin l'État, le gouvernement est en train de réfléchir à une réforme du CNDS et, de manière plus générale, à la manière dont l'État va s'organiser pour préparer Paris 2024. Et Paris 2024, c'est pas seulement le sport de haut niveau, c'est aussi ce qu'on appelle l'héritage. Et l'héritage, c'est la pratique sportive sur l'ensemble du territoire, parce que ça fait partie des choses importantes dans ce type d'événement et dans l'héritage qu'on souhaite laisser sur les Jeux de Paris 2024. Donc nous souhaitons que la Française des Jeux continue d'être associée au financement du sport pour tous. Ça fait partie de notre histoire maintenant, ça fait plus de 20 ans qu'on le fait et on souhaite le faire, mais c'est une décision du gouvernement en grande partie.
Et vous évoquiez tout à l'heure, Stéphane Palaise, le loto du patrimoine. La Française des Jeux va contribuer au mois de septembre à aider au financement d'un grand plan de rénovation des monuments en péril. Vous pouvez nous expliquer comment ça va procéder. D'ailleurs, c'est pas nouveau, hein. On se souvient que la Française des Jeux, ou plutôt la Loterie Nationale, avait été créée en 1929 quand il y avait des gros problèmes budgétaires, finalement.
Alors, c'était à l'époque pour le patrimoine.
C'était pas pour le patrimoine,
c'était plutôt pour les gueules cassées.
C'était pour aider à la réinsertion des gueules cassées.
Exactement. Ils sont toujours nos actionnaires et ça fait partie aussi de notre histoire. Merci de le rappeler.
Et on voyait des aveugles dans le métro parisien qui vendaient des tickets il y a encore quelques années.
Tout à fait.
Donc là, c'est le loto du patrimoine.
Alors, c'est le loto du patrimoine. Dans le loto du patrimoine, comment ça va se passer? Eh bien, donc on a choisi effectivement, alors quand je dis on, c'est un collectif avec la Fondation du patrimoine, le ministère de la Culture, Stéphane Bern qui a chargé cette mission. Donc ont été choisis 270 monuments qui vont donc être aidés par la Fondation du patrimoine grâce aux fonds que nous allons récolter dans les prochaines années, parce que c'est pas seulement cette année. Nous, à partir de septembre, donc on va lancer deux types de jeux, c'est-à-dire d'une part donc un tirage spécial du loto sur lequel on pourra commencer à miser à partir du 3 septembre et aussi donc une gamme de tickets de grattage sur lequel figurent alors pas les 18 monuments emblématiques choisis parce qu'il n'y avait pas la place, mais 13 monuments emblématiques et on espère grâce à ça collecter de l'ordre de 20 millions d'euros qui est la part que l'État aurait récupérée sur ces jeux. Donc les joueurs, ils vont avoir les mêmes chances
de
gagner.
Là, les gens le savent et c'est estampillé,
ils savent où va l'argent, on leur montrera où va l'argent et donc on pense que c'est une très belle initiative et on est très confiants sur le fait qu'elle va rencontrer le succès auprès de beaucoup de Français.
Merci beaucoup Stéphane Palaise, présidente directrice générale de la Française des Jeux. Merci d'avoir été l'invité de la première matinale de France, celle de France Inter.